votre podcast d'enseignement préféré, l'enseignement à l'oreille. Nous sommes vos hôtes, Amélie, Annika et moi, Hannah. Et cette semaine, dans l'épisode 23, nous voulons vous parler dans une interview que nous avons réalisée récemment avec une future enseignante stagiaire. Donc, Frédérique vit à Flensbourg et elle a fait un FSJ en Inde. De plus, elle était jeune fille au pair en France. Elle a fait des études de géographie à Mayence et elle a ajouté le français et obtenu sa licence pour l'enseignement à Mayence. Elle était également assistante de langue à Brest.
Oui, elle a beaucoup voyagé et vécu, premièrement en Inde, après en France, comme c'est intéressant.
Oui, vraiment. Elle a fait son master à Flensbourg, puis elle a fait un deuxième master à Kiel, donc deux masters. Et en plus, elle a deux enfants, ce qui est très impressionnant, je trouve, de faire tout ça ensemble.
Oui, définitivement.
Oui. Et maintenant, elle travaille à la Fördergymnasium ici à Flensbourg. Et elle a fait des vacances l'été dernier, je pense, en France, mais elle fait ça régulièrement. Et en septembre, elle commence son stagiaire au Altes Gymnasium. Je ne sais pas si vous le connaissez ici en ville.
Ah oui, oui, je crois.
Oh, très bien. Donc, ses filières sont, comme j'ai déjà un peu dit, le français et la géographie. C'est pour elle, c'est un peu difficile de trouver une école ici au nord parce que bon, le français, ce n'est pas très courant. Ce qui est très malheureux, je pense, mais bon, c'est comme ça. Après, elle a s'introduit un peu ce que j'ai raconté maintenant. Nous avons demandé si... Quel groupe des élèves elle a et des choses sur son vie professionnelle. Elle a en général des élèves qui choisissent entre le français et le latin. Il apprend ensuite la langue pendant environ 4 ans à partir de la 5e. Mais il n'y a pas beaucoup d'élèves qui continuent à apprendre la langue après les dites 4 ans.
Non, c'est vraiment dommage. J'espère que ça changera dans quelques années quand nous enseignerons. Malheureusement, c'était déjà comme ça avant, quand j'étais à l'école.
Oui, malheureusement, à mon école aussi. C'est dommage.
Oui, je trouve ça aussi. Le niveau d'enseignement, c'est aussi, bien sûr, très différent de... actuellement, elle est enseignante dans une classe de la seconde année, deuxième année, je suis désolée, de français. Et dans la sixième, cinquième et quatrième en géographie. Donc, en total, elle a des classes très dynamiques, mais gentilles. Et elle a seulement une classe qui est un peu plus défiante. Mais il y a toujours des élèves très ambitieux et des élèves désintéressés, donc... C'est normal, mais quand même, elle se réjouit d'aller en classe et le travail lui plaît vraiment.
Ouais, c'est le plus important. On n'aura jamais une classe à tout le monde et motivée et aime la matière ou l'enseignant, oui.
Oui, en tout cas, il faut être prêt au fait que tous les élèves ne sont pas motivés. Donc, peut-être on peut encore convaincre l'un ou l'autre de la matière.
Bon, plus tard, elle nous a dit des choses très intéressantes sur le niveau des élèves. Elle a souligné qu'il était important de s'adapter aux élèves. Elle essaye de parler plus lentement et plus clairement, de former des structures de phrases simples. Elle se base sur le principe autant de français que possible, aussi peu d'allemand que nécessaire. Et c'est une très bonne directive, je pense.
Oui.
Cependant, les réprimandes, toutes comme l'explication de la grammaire, fonctionnent mieux en allemand qu'en français.
Oh, oui, j'imagine que ça peut être très difficile de s'adapter. Donc, mais ça devient plus facile, je pense, avec l'expérience professionnelle.
Oui, j'imagine. La langue allemande est aussi très expressive lorsqu'il s'agit de réprimandes. Je comprends aussi tout à fait l'idée d'enseigner la grammaire en allemand. Les élèves doivent comprendre. C'est donc normal de se concentrer davantage sur le contenu ou les règles que sur l'utilisation du français. Mais elle a remarqué aussi à ce sujet que l'apprentissage d'une langue étrangère avait naturellement un effet plus fort lorsque les apprenants sont enseignés par les locuteurs natifs et non par les enseignants dont ce n'est pas la langue maternelle.
Bon, oui, je peux imaginer je peux l'imaginer, ouais. Mais c'est quelque chose que beaucoup d'écoles ne peuvent pas faire forcément. Bon, c'est pas vraiment possible, je pense. Et je pense aussi que personne ne peut s'attendre à cela.
Oui, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il faut accepter ce fait dans ce cas-là que oui, qu'on ne peut pas faire la garantie d'avoir une...
Oui, parce qu'il y a aussi bon, les personnes, ils manquent aussi, donc.
Oui, c'est ça, donc.
Voilà. Oui, absolument. Et les locuteurs natifs ont un accent plus authentique, ce qui aide les élèves à apprendre la prononciation correcte et développer au sens de flux naturel de la langue. Mais cependant, les enseignants en natif et non natif ont souvent une compréhension plus approfondie des structures grammaticales parce qu'ils ont également dû les apprendre. Ils peuvent souvent mieux comprendre les difficultés des élèves et fournir des stratégies pour surmonter les obstacles. Moi, ainsi, les enseignants non natifs peuvent également être très efficaces, n'est-ce pas?
Oui, bien sûr.
Oui, je pense aussi.
Frédéric a noté en outre que la culture française n'était pas du tout représentée en Allemagne et que peu de chansons françaises étaient diffusées à la radio, par exemple. C'est vraiment dommage. Je pense que ce serait un moyen idéal pour que les élèves améliorent leur niveau à la maison. Puisqu'ils consomment de toute façon ces médias au quotidien et que ce sera bien pour former leur compréhension de la langue, mais aussi pour s'habituer à la sonorité de la langue. Et j'ai l'impression que depuis que je regarde des séries espagnoles, par exemple, ou que j'écoute régulièrement des musiciens français comme Maître Jim, mon niveau s'est déjà amélioré. Comment ça se passe chez vous?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi et je pense aussi que oui, cela réduit la pression de l'apprentissage et permet aussi d'apprendre la langue avec beaucoup plus de plaisir.
Oui, je pense aussi. Et en plus, c'est aussi possible d'écouter de radio français ici. Donc, par exemple, sur Apple Music, vous pouvez choisir un truc de radio et par exemple, Chérie FM.
Ah oui, vraiment?
C'est vraiment bien parce qu'il y a beaucoup de musique et c'est très...
Ah, je dois faire ça.
C'est mieux que le radio allemand, je pense.
Oui, et quand j'étais encore à l'école, nous avons regardé quelquefois La Boum. Je ne sais pas si vous connaissez le film, au Tintin et Milou. Mm-hmm. Et oui, j'ai eu la possibilité d'améliorer mes connaissances dans la langue française et j'ai toujours aimé ça. Mm-hmm. C'était vraiment drôle.
Oui, j'imagine. Donc, on pourrait peut-être essayer de montrer plus souvent en classe des chansons actuellement écoutées par les jeunes en France, même s'ils ne comprennent pas tout. Bon, simplement pour qu'ils ont une impression et qu'ils ont peut-être envie de s'y intéresser, bon, peut-être aussi à la maison.
Absolument. Oui. Ensuite, nous lui avons demandé quels étaient les défis et les opportunités qui se présentent à elle à l'école. Un défi est qu'elle était souvent très étonnée par le fait que les élèves ne savent pas encore beaucoup de choses. Son vocabulaire, par exemple, est beaucoup plus riche que celui des élèves. Mais c'est normal, n'est-ce pas?
Ben ouais, ça va y arriver, je pense.
Oui, et comme opportunité, Frédéric a souligné l'importance de l'enseignement des langues étrangères pour les élèves qui souhaitent apprendre une langue étrangère. Elle essaye de rendre les cours passionnants pour les élèves, par exemple en se distançant du manuel scolaire et en travaillant beaucoup avec des chansons ou en apportant des idées motivantes pour les cours.
Ah oui, je pense que c'est aussi très important d'un point de vue didactique. Donc il faut simplement voir comment ils se comportent et d'une classe à l'autre et... Bon, il faut établir un lien avec le monde des enfants aussi.
Mmh. Je suis d'accord avec toi, Hannah.
Oui, et de plus, le sentiment de réussite est une autre chose importante pour elle, qu'elle essaye de rendre possible pour les élèves en recherchant une résonance positive dans l'enseignement des langues étrangères et non pas l'apprentissage pur et simple de vocabulaire par cœur, page à page. Et je suis tellement d'accord avec ça, car les expériences de réussite peuvent considérablement augmenter l'intérêt et le plaisir d'apprendre, ce qui conduit finalement à de meilleurs résultats d'apprentissage. Il est tellement important de mettre en avant les points forts des élèves. Ce qui nous a aussi beaucoup intéressé dans l'interview, c'est dans quelle mesure les études l'ont bien préparé à son métier ou quels autres facteurs l'ont aidé. Premièrement, elle a recommandé d'avoir séjourné longtemps en France et elle considère ça comme une obligation. Pour elle, la maîtrise de la langue est essentielle. Elle trouve en outre que l'université de Flensbourg n'en fait pas assez par ce domaine, car contrairement à d'autres universités, le séjour à l'étranger n'est pas obligatoire. Et est-ce que vous avez déjà fait un semestre à l'étranger et pensez-vous que c'est nécessaire?
Bon, oui, moi j'ai déjà passé plusieurs séjours à l'étranger, mais pas en cadre de l'université. Mm-hmm. Mais j'imagine que certains pensent que c'est important et bon, bien sûr c'est important, mais je pense qu'il faut aussi considérer que c'est un privilège de pouvoir partir à l'étranger.
Oui.
Oui, et que tout le monde ne peut pas le faire. C'est que ce soit pour des raisons financières ou personnelles, c'est pas possible pour tout.
Oui.
Oui, je pense aussi que qu'une bonne compétence linguistique est importante pour l'apprentissage d'une langue étrangère. Mais oui, un séjour à l'étranger aide à mieux connaître et comprendre la langue et la culture d'un pays. Oui, Annika, qu'est-ce que tu penses?
Bon, en tout cas, je pense qu'il est important d'avoir vécu dans le pays où l'on parle la langue et que vous l'enseignez. Mais cependant, je ne pense pas que le semestre à l'étranger soit nécessaire ou utile. Souvent, en tant qu'étudiant, on se retrouve dans la bulle Erasmus et c'était la même chose pour moi.
Oui, et, pour moi aussi.
Et on est en contact avec de nombreuses nationalités, mais peu avec des locuteurs natifs. Ainsi, on parle peut-être plus anglais que français, par exemple, ou l'espagnol, le cas pour moi. Et de plus, c'est vrai, c'est aussi une question d'argent, si on peut se permettre d'aller à l'étranger. C'est pourquoi ça ne devrait pas être obligatoire pour moi.
Oui, je pense ça aussi.
Et Frédérica a une opinion très similaire à ce sujet. Pour elle, elle était en contact direct avec les gens qu'elle a pu améliorer ses connaissances en français ou en voyageant. Et ce qu'elle a le plus apprécié, c'est l'échange avec les familles ou en travaillant dans une ferme. Pour elle, l'Erasmus n'est pas aussi efficace à ce niveau. Pour elle, le fait de devoir s'adapter à un nouveau lieu et d'étudier dans une université étrangère est plutôt un obstacle et ne présente donc que peu d'avantages pour la langue étrangère. Bon, et finalement, en ce qui concerne la maîtrise de la langue, que pensez-vous de l'aspect suivant qu'elle a mentionné? Les élèves demandent constamment du vocabulaire aux enseignants, notamment pour les devoirs d'écriture. Elle concède cependant qu'elle a parfois recours à un traducteur, notamment lorsqu'elle ne trouve pas de mots ad hoc ou lorsqu'on lui demande un mot spécifique. Elle souligne néanmoins l'importance d'un vocabulaire bien établi et en langue étrangère afin de pouvoir servir de modèle linguistique aux apprenantes. Toutefois, les enseignants peuvent aussi faire des erreurs, raison pour laquelle elle se corrige elle-même et le fait savoir à ses élèves.
Bon, oui, bien sûr. Il est important d'avoir un vocabulaire étendu, mais il ne faut pas oublier que l'on prépare les cours et l'on peut donc s'approprier le vocabulaire si nécessaire. Mais c'est aussi une chose qui deviendra certainement plus facile avec les années dans la profession, je pense. Bon, en même temps, je ne trouve pas que ce soit une mauvaise chose de faire des fautes parce qu'on veut que les élèves savent que c'est pas trop grave de faire des fautes, donc on peut le montrer
que
nous, on fait des fautes aussi.
C'est vrai.
Oui, je pense aussi que faire des erreurs fait partie du processus, comme Hannah, tu as déjà dit. Et on peut se permettre de faire des erreurs comme enseignant aussi, je pense, parce que l'apprentissage des langues est un processus continu et personne ne peut être parfait à mon avis.
Oui, absolument.
Oui, donc on lui a demandé aussi comment se déroule son quotidien entre les études et l'entrée dans la vie professionnelle. Et pour elle, Oui, le niveau de stress représente un défi car on lui demande souvent si elle peut assurer des remplacements, mais aussi parce que la vie privée et la vie professionnelle sont souvent mélangées. Comme elle a déjà 2 enfants, je pense que c'est un peu compliqué.
Mmh,
et oui, elle rapporte aussi l'exemple d'être à la maison et de préparer tout en soulignant l'importance de fixer des limites et de se reposer. Oui, elle estime que jusqu'à un certain point, il est possible de travailler sur son propre niveau d'énergie, mais qu'il ne faut pas négliger sa propre santé mentale afin d'éviter les symptômes d'épuisement.
Mmh.
Oui, et quel avis avez-vous concernant les aspects mentionnés? Parce que moi, personnellement, je partage le même avis que Frédérique. Oui, il est important de se reposer et oui, d'essayer de séparer strictement la vie professionnelle et la vie privée, oui, pour éviter un surménage. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ben, oui, à un côté, oui, mais cependant, je crois que le travail d'enseignant, c'est largement conclu par mélanger la vie privée et la vie professionnelle, malheureusement. Oui.
C'est pas sans raison que l'on dit que le taux de burn-out est plus élevé dans le métier d'enseignant que dans d'autres professions. Vous savez qu'environ un tiers d'entre eux souffrent de tels symptômes. Espérons-nous que nous n'en ferons pas partie plus tard.
Ah oui.
Oui, d'autres questions que nous lui avons posées, c'était quelles sont des choses qu'elle aurait aimé savoir avant d'occuper la poste d'enseignant en remplacement. Et oui, elle a répondu que l'enseignement se déroule principalement en allemand, ce qu'elle juge de manière critique car la pratique de la langue n'est ainsi que difficilement possible. Il est donc de la responsabilité des étudiants de bien se préparer à ce regard. Et de plus, elle parle de la réflexion sur soi-même en ce qui concerne ses propres compétences. Par exemple, qu'est-ce que je sais faire et qu'est-ce que je ne sais pas faire. Car il s'agit d'être ouvert et également à la critique, mais en même temps de ne pas pouvoir plaire à tout le monde, notamment en vue du stagiaire. Et oui, les opinions sont différentes et il n'est pas possible de plaire à tout le monde. Ce qui compte, c'est la personne qui enseigne et la manière dont elle enseigne et pas le contenu.
Mm.
Et oui, moi, je suis d'accord. Pendant mon stage, j'ai aussi fait l'expérience que ce qui passe le mieux auprès des apprenants, c'est de ne pas jouer un rôle. Je pense que c'est vraiment intéressant et important aussi. Et oui, il est important de rester authentique dans ce cas. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi, j'ai l'impression que les élèves savent quand on prétend être quelqu'un d'autre.
Tout à fait. Si on n'est pas motivé en réalité, on ne peut pas non plus motiver les élèves. Et c'est définitivement quelque chose qu'il faut pratiquer. Toujours réfléchir sur soi-même et en même temps ne pas commencer à douter de soi-même.
Ben oui, c'est vrai. En fait, je pense que peut-être une bonne mélange, par exemple... il y a certaines choses qu'on demandait plusieurs fois. Donc, par exemple, est-ce que je peux aller aux toilettes, des choses comme ça. Et il faut que les élèves savent de dire ça en français. Mais en même temps, ça ne sert à rien si on explique toute la grammaire en français et personne ne le comprend. Ça ne sert à rien à la fin.
Oui, c'est vrai.
Oui, mais tu as raison avec les expressions fixes comme est-ce que je peux aller aux toilettes. Je pense que c'est vraiment important d'avoir la connaissance dans ce cas-là. Et oui, elle souligne aussi que prendre les apprenants au sérieux et prendre l'initiative pour montrer ce qu'on attend des apprenants est, oui, également important. Et l'exigence varie d'un enseignant à l'autre. Et pour cette raison, il est difficile pour les apprenants de savoir à quoi chaque enseignant fait attention.
Mm-hmm.
Oui, et Frédérique, elle conseille d'être plus strict au début et de relâcher la pression avec le temps pour créer une certaine atmosphère de contrôle pour les apprenants. Et oui, elle a aussi souligné la transparence qui est également un aspect qu'elle souligne afin d'être proche aux apprenants.
Oui, Luffy,
Pour la dernière partie de notre podcast, j'ai d'autres questions pour vous deux.
Mm-hmm.
Souvenez-vous de vos professeurs et oui, de leur façon d'enseigner?
Bon, chez nous, les exigences d'un enseignant n'ont pas changé au fil des ans. Je suppose que la personnalité d'un enseignant doit se développer au fil du temps, mais dans une classe, on n'a jamais l'occasion de faire une deuxième, première impression. Et si les élèves ont pensé une fois que le professeur était trop relâché, ils ne le prendront jamais aussi sérieusement qu'un professeur strict.
Oui, c'est vrai. Pour ma part, la plupart du temps, je trouvais le professeur plus relax, le plus sympa, justement mm-hmm. parce qu'il ne se prenait pas trop sérieux et qu'il avait donc en général une ambiance de travail positive.
Oui, je suis d'accord.
Bon, oui, absolument. Bon, j'ai eu une professeure de français tellement géniale, Madame Kindervater. oui, c'était son nom. c'est son nom. Elle est aujourd'hui encore mon role model. Tout le monde l'aimait et c'est même grâce à elle que j'étudie le français et l'histoire parce que c'est aussi les filières qu'elle a combinées. Donc, ouais.
Et les professeurs, on en a fait très, très grandes.
Oui.
Oui, bien sûr. Et c'est aujourd'hui encore comme ça parce que j'ai fait mon dernier stage chez elle et c'est encore comme ça tous les élèves. Ils l'aiment, donc
vraiment bien.
C'est très cool.
Oui, donc nous arrivons maintenant à la fin de notre podcast. C'était vraiment intéressant d'apprendre ces choses sur le travail quotidien d'un enseignant ou d'une future prof.
Non, même si certaines informations nous ont donné à réfléchir de manière critique, l'interview était en général très enrichissante.
Oui.
Et nous espérons que nous avons également pu vous apporter des nouvelles connaissances et aussi aider les futures enseignantes.
Et maintenant à vous, quelles sont vos critiques? Qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Et n'hésitez pas à nous écrire sur Instagram.
Oui, c'était l'enseignement à l'oreille sur débutants dans la profession. Pas de problème. Suivez ces podcasts sur Spotify pour ne manquer aucun épisode. Si vous avez aimé cet épisode et si vous voulez en savoir plus, vous devriez aussi écouter notre épisode avec une prof stagiaire. Nous vous mettons le lien dans le show notes. Et oui, moi je suis Amélie et nous remercions tout particulièrement Frédérique qui nous a parlé pour cet épisode. Au revoir et à la semaine prochaine. Nous y parlerons de l'IA et comment utiliser certaines applications en classe.